Mémodio, une mémoire sonore.
Le Petit Journal, 18 février 1885. Un crime commis dans des conditions tout à fait inédites vient d'être découvert dans la commune de Lorgues, à quelques kilomètres de Toulon. La victime, un dénommé Joseph Bernard, horloger de son métier, a été découverte par sa femme qui rentrait avec leurs deux enfants d'une visite chez sa mère. Le corps a été retrouvé dans l'atelier de l'horloger, qui est aussi la maison familiale. Aucune trace de violence, seule une goutte de sang, au pied de l'horloge à pendule de la boutique, éveilla l'attention des enquêteurs. C'est en ouvrant le meuble qu'ils se trouvèrent face à l'horreur. Le cœur, encore tiède, de M. Bernard était là, se vidant de son sang dans les rouages. L'autopsie a confirmé ce que des esprits pervers ont déjà soupçonné, à la place du cœur, la cage thoracique de M. Bernard contenait une pièce d'horlogerie. Pièce qui n'a pas pu être clairement identifiée. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la police ne dispose d'aucune piste sérieuse. Petite, je connaissais cet article par cœur. Madame Bernard, ma mère, l'avait gardé. Ce crime, tellement insolite, faisait la une. Accompagné d'une lithographie si sanglante qu'elle en saturait le papier. Un fait divers suffisamment cruel pour choquer et tellement mystérieux. J'avais du mal, s'agissant de mon père, avec cet aspect insolite. Je déteste ce mot, c'est une accusation. Il y a ce qui est dans la norme, puis ce qui n'y est pas. La norme, ma famille y était complètement. Deux parents, deux enfants, puis mon père. J'avais 5 ans quand il est mort. Je n'en garde aucun souvenir. Une légère tristesse, peut-être. De 5 ans, mon aîné, mon frère, en fut marqué davantage et ne s'en remit jamais vraiment. Pendant toute notre enfance, il se donna pour mission de le faire vivre pour moi, ce père disparu. Il connaissait l'atelier sur le bout des doigts, chaque tiroir, chaque outil, tous les rouages. Il marchait dans les pas du patriarche. Moi, j'évitais à tout prix de suivre ceux de ma mère. Souveraine dans cette maison, elle adorait son rôle de mère. Mon frère s'inclinait, mais moi, je bouillais. Nous nous affrontions souvent, et ça se finissait presque toujours par une solide paire de gifles. Jusqu'au jour où, trop sûre d'elle, elle manqua son coup, se tordant méchamment l'auriculaire. La vue de l'autorité ainsi ridiculisée me fit oublier la douleur et déclencher chez moi un fou rire incontrôlable. J'avais beau serrer les dents, me mordre les lèvres, impossible de me contenir. Par chance, elle se mit à rire avec moi. Et depuis ce jour-là, nous fûmes à égalité. Sa colère contre la mienne, mes projets contre les siens, ses modèles contre les miens. Grâce à un proche de ma mère qui avait un fils du même âge que moi, je profitais d'une éducation bourgeoise. Je me mis à étudier les mathématiques. J'en fis même mon métier en étudiant la dynamique, le mouvement. Un phénomène plus complexe qu'il n'en a l'air. Je me spécialisais sur le sujet quand je vis pour la première fois une double pendule. En apparence simple, l'objet, un balancier à l'extrémité duquel est fixé un second balancier, se révélait d'une étonnante complexité. Alors qu'un balancier simple se contente d'osciller docilement de droite à gauche avec une régularité parfaite, le double pendule s'acharne à ne jamais se déplacer de la même manière, impossible de prévoir à l'avance ses mouvements. Il est libre. C'est ça qui me plaisait. Dès que je pus, je quittais le foyer familial pour poursuivre mes études à la capitale. Et je ne revins à l'orgue qu'à la mort de ma mère, en 1908. J'eus du chagrin. Je compris que malgré tout, je l'aimais. Avec mon frère, nous avions correspondu régulièrement des lettres factuelles, familières mais sans chaleur. Il habitait avec maman et tenait la boutique. À mon arrivée, je le trouvais fatigué. Au retour des funérailles, nous nous rendîmes dans la chambre de ma mère. Un tricot en cours, les aiguilles plantées à l'intérieur, sur une chaise, un chemisier encore imprégné de son odeur, tous ces riens auxquels on ne prête pas attention d'ordinaire. Nous trouvâmes aussi des cahiers qu'elle avait gardés depuis son enfance. Au début, écriture balbutiante de l'écolière qui allait en s'affirmant avec le temps, et puis se faisait de plus en plus hésitante, tremblée, avec l'âge. Je n'en lus aucun. Dans une boîte, des coupures de journaux qui traitaient de parents plus ou moins lointains, de vagues cousins. Tout ça m'était complètement étranger. Il y avait aussi le menu du mariage des parents. Un véritable festin qui nous amusa. Et puis, dans son écrin, une montre à gousset. Aussitôt, mon frère disparut pour revenir avec à la main le sac à outils, la loupe coincée dans l'œil. Il saisit la montre de sa main gantée, le portrait de son père. Nous passâmes dans l'atelier plus lumineux. La montre était gravée de formes géométriques, des polygones qui ornaient tout le boîtier sans aucune symétrie. Et pourtant, le tout était harmonieux, donnait l'impression d'un mouvement perpétuel. Mon frère se mit à me décrire la montre qu'il manipulait, j'eus comme un frisson de ce que je ressens quand mon attention est tout à coup en éveil. Qu'est-ce qui pouvait bien me passionner dans ces explications horlogères? Le sentiment de parfaite cohérence de ce moment. Un horloger en habit d'horloger, parlant d'horlogerie, au milieu de pièces horlogères. Je l'écoutais fasciné. Puis soudain, un client entra dans la boutique en coup de vent. « Je vous préviens, hein, comptez sur moi pour vous faire une réputation. Hein. Un mois que j'attends, et toujours rien. » Mal à l'aise, mon frère se confondit en excuses, mais l'autre était déjà reparti en claquant la porte. Il se remit au travail, m'expliquant qu'avec tout ça, il avait pris un retard monstre. Que les gens étaient de plus en plus exigeants. Tout de suite, ils n'avaient pas le choix. Que je pouvais aller m'installer chez notre cousin. Moi, j'insistais pour rester dormir dans la chambre de maman. Il accepta. J'allais partir me coucher quand soudain, il s'effondra. Je me précipitai. La maigreur, ce teint blafard, ses cernes, il présentait tous les signes d'une fatigue extrême. Et puis j'ai entendu un bruit. Je collai mon oreille à sa poitrine. Un cliquetis régulier, mécanique. Dans un sursaut, il reprit connaissance et d'un regard me fit comprendre d'aller remonter la pendule parricide. Je m'exécutai, et puis, poussé par la curiosité, j'entrouvris le meuble. Horreur. Horreur, c'était vivant. De la chair. Une chaleur. Des mécanismes baignant dans une matière sanglante et au milieu un cœur. Un cœur palpitant. Je refermai l'étrange abdomen et revins vers lui. Je le pris dans mes bras. Il semblait soulagé, remonté. Ce soir-là, nous dormîmes ensemble. Je profitai de ce moment d'intimité pour essayer de mieux le connaître, de le savoir, comment dire, mécanique, me le rendait bizarrement plus humain. Il me parla de notre mère, des contraintes qu'il s'était imposées pour contrebalancer les libertés que j'avais prises. Après avoir perdu son mari, ma mère n'aurait pas supporté de voir partir ses deux enfants. Je me gardais bien de lui dire que pour moi, il avait eu tort de se sacrifier. Je lui parlais de mes recherches. Il fut bien sûr très intéressé par mon double pendule et la passion qu'il m'inspirait. Au matin, je me réveillais seul dans le lit, seul dans la boutique, seul dans la maison. Quelques outils qui traînaient ça et là, qui n'y étaient pas hier soir. Après quelques instants d'hésitation, j'osai ouvrir le corps de cette fichue pendule. Non. Non. Elle était double. Un double pendule virevoltait là, dans cette boîte de chair, oscillant de droite à gauche, puis s'immobilisait en tourbillonnant avant de repartir, de s'immobiliser ensuite pour repartir de plus belle. Le cœur de mon frère dansait. Le cœur de mon frère battait un temps aléatoire, fantasque, un temps détraqué. Avec les années, mes souvenirs s'estompent. Je finis même par douter de la réalité de ce qui s'est passé. Jusqu'au jour où ce poème me tomba sous les yeux. N'avoir aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, des soucis cuisants, posséder pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti 10 ans. Ah, les gens bienheureux! Tout à coup, dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement, un grand vol en forme de triangle passe. Où vont-ils? Qui sont-ils? Comme ils sont loin du sol. Regardez-les passer. Eux, ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le veut, par-dessus monts et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Il était dès l'heure maintenant. Mon frère, libre. Il les avait rejoints. Un oiseau de passage.
Mémodio, une mémoire sonore.